Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 2001, La férocité blanche est un essai historique et politique de Rosa Amelia Plumel Uribe, avocate et essayiste colombienne écrivant en français. Son sous-titre annonce son projet « Mettre en relation les violences exercées contre des populations non blanches depuis la conquête des Amériques avec les persécutions raciales », culminant dans le nazisme. L'ouvrage examine notamment la traite esclavagiste, les conquêtes coloniales, les expropriations, le travail forcé et les massacres commis en Afrique, dans les Amériques, en Australie et en Asie. Son argument central est que la hiérarchisation raciale a rendu possible des pratiques de domination et d'extermination durablement minorées dans les récits européens. Plumel Uribe ne propose pas une histoire exhaustive de chaque crime colonial, mais une lecture transversale de leur justification idéologique, de leurs mécanismes institutionnels et de leur faible place dans la mémoire publique. Le livre est engagé et suscite des débats méthodologiques, notamment sur certaines comparaisons historiques et généralisations. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, relier conquête coloniale et idéologie raciale européenne. Le geste le plus distinctif de la férocité blanche consiste à inscrire les violences coloniales dans une longue histoire de la suprématie raciale européenne. L'autrice part de 1492. Date emblématique de la conquête des Amériques, pour étudier comment la différence religieuse, culturelle ou physique a pu être convertie en hiérarchie humaine. Dans cette lecture, la colonisation ne relève pas seulement de la conquête territoriale ou de l'intérêt économique, elle repose aussi sur des représentations qui présentent certains peuples comme moins civilisés, moins rationnels ou disponibles pour le travail forcé. Cette dévalorisation facilite alors la dépossession des terres, la réduction en esclavage et la destruction de sociétés entières. Le livre insiste sur le caractère durable de ces représentations, qui ne disparaissent pas nécessairement avec les indépendances ou les abolitions juridiques. Il invite ainsi à regarder la violence coloniale comme un système associant pouvoir militaire, exploitation économique, droits inégalitaires et discours de légitimation. Cette perspective permet de déplacer le regard des seuls épisodes les plus connus vers les conditions intellectuelles et administratives qui ont rendu ces violences possibles. Elle demeure toutefois une grille fortement polémique qui demande au lecteur de distinguer les continuités réelles des différences entre contextes historiques. Deuxièmement, comparer les crimes coloniaux et la destruction des non-ariens. Plumel Uribe rapproche le suprémacisme blanc développé dans les empires coloniaux du suprémacisme arien promu par le nazisme. Son objectif n'est pas de nier la spécificité historique de la Shoah, mais de contester une mémoire qui isolerait entièrement les crimes nazis de précédentes pratiques impériales de racialisation et de destruction. Elle met en avant des ressemblances de structure construction d'une ennemie inférieure, déshumanisation, réduction de personnes à une catégorie raciale, usage de la violence administrative et impunité des décideurs. Des cas tels que le génocide des Herero et des Nama dans le sud-ouest africain allemand au début du XXe siècle prennent, dans cette démonstration, une importance particulière car ils montrent que politiques de massacre, camps et pseudo-sciences raciales existaient dans un cadre colonial allemand avant le régime nazi. La comparaison a une fonction morale et historiographique, elle interroge les critères qui font reconnaître certains massacres comme centraux et en reléguer d'autres à la périphérie. C'est aussi le point le plus discuté du livre. Des analogies entre phénomènes historiques peuvent éclairer des mécanismes communs, mais elles risquent de gommer les temporalités, les intentions et les configurations propres à chaque événement. La valeur du livre tient donc autant à la question « poser quoi ?» la prudence critique exigée par sa réponse. Troisièmement, traite esclavagiste, économie impériale et violence institutionnalisée, l'ouvrage accorde une place essentielle à la traite transatlantique et à l'esclavage colonial. Non comme simple arrière-plan économique, mais comme organisation durable de la domination racialisée. La mise en servitude de millions d'Africains et de leurs descendants a exigé des dispositifs concrets capture, transport, vente, discipline du travail, contrôle des déplacements et transmission statutaire de la condition servile. Pour Plumel Uribe, cette ampleur institutionnelle empêche de traiter les brutalités comme des abus isolés. Elles s'inscrivent dans des systèmes soutenus ou protégés par des États, des intérêts commerciaux, des législations et des récits justifiant la subordination. Cette analyse permet aussi de comprendre pourquoi l'abolition de l'esclavage ne clôt pas automatiquement son histoire. Les hiérarchies construites durant plusieurs siècles peuvent survivre sous d'autres formes, dans les rapports de propriété, les représentations sociales ou les inégalités entre anciens empires et territoires dominés. Le livre ne se limite donc pas à compter les victimes, exercices souvent incertains et politiquement instrumentalisés. Il attire plutôt l'attention sur les procédés qui transforment une population en ressources exploitables et rendent la souffrance socialement tolérable. Cette approche éclaire le lien entre violence physique et ordre économique, tout en appelant à ne pas réduire la diversité des expériences esclavagistes à un seul modèle uniforme. Quatrièmement, Congo, Amérique et Namibie, comme épreuve de la mémoire historique, pour rendre son propos concret. La férocité blanche mobilise plusieurs séquences historiques associées aux violences impériales. L'autrice évoque notamment la conquête et la colonisation des Amériques, les ravages de la domination coloniale dans le bassin du Congo sous Léopold II, ainsi que l'extermination des Herero et des Nama par les autorités coloniales allemandes. Ces exemples ne sont pas présentés comme interchangeables. Ils montrent plutôt des combinaisons variables entre dépossession foncière, travail forcé, répression militaire, mortalité de masse et destruction des structures sociales. Le cas namibien est largement reconnu comme un jalon majeur dans l'histoire des violences coloniales allemandes, tandis que le Congo illustre les effets meurtriers d'une régime d'exploitation du caoutchouc fondé sur la coercition. Dans les Amériques, l'effondrement démographique autochtone après la conquête doit être analysé avec attention, car guerre, travail forcé, déplacements et maladies introduites ont joué des rôles imbriqués. Cette complexité est précisément un enjeu de lecture, le livre veut combattre le silence ou le relativisme. Mais les catégories de génocide, de massacre, de crime colonial et de catastrophe démographique ne sont pas toujours identiques. Le lecteur y trouve donc moins un manuel de synthèse qu'un répertoire accusateur, destiné à faire entrer ces violences dans une mémoire mondiale plus attentive aux victimes des empires. En dernier lieu, mémoire sélective, responsabilité et limite d'une histoire militante, la férocité blanche défend une thèse sur la mémoire autant que sur le passé. Selon Plumel Uribe, les sociétés européennes ont plus volontiers intégré certains crimes à leur conscience publique que les destructions liées à leur expansion coloniale. Cette asymétrie mémorielle aurait des effets présents, elle facilite une vision valorisante de la mission civilisatrice, minimise les héritages de l'esclavage et rend plus difficile la reconnaissance des responsabilités historiques. Le livre réclame donc un examen critique des récits nationaux, des commémorations et des catégories morales employées pour nommer les violences de masse. Son intérêt est de rappeler que les archives, les programmes scolaires et les traditions intellectuelles ne sont jamais totalement neutres dans la construction de ce qui mérite mémoire. Mais cette force militante constitue également sa principale limite. L'autrice privilégie une continuité très marquée entre colonisation, racisme moderne et nazisme, ce qui expose son raisonnement à des critiques de simplification et d'anachronisme. Certaines affirmations ou rapprochements demandent à être confrontés aux travaux spécialisés sur chaque ère et chaque période. Lire ce livre de façon féconde suppose donc une double attitude, prendre au sérieux son exigence de décentrement et de reconnaissance, tout en vérifiant les sources, les définitions et les comparaisons. Cette tension explique pourquoi l'essai reste un ouvrage de débat plutôt qu'une référence consensuelle. En conclusion, la férocité blanche s'adresse aux lecteurs intéressés par l'histoire coloniale, les études sur le racisme, les politiques de mémoire et les débats sur la reconnaissance des violences de masse. Il peut être particulièrement utile à qui souhaite sortir d'une histoire centrée sur l'Europe comme seul espace de production des catégories universelles et examiner la part des empires dans la formation des hiérarchies raciales modernes. Son apport intellectuel tient à sa capacité à rapprocher des dossiers souvent étudiés séparément: conquête des Amériques, traite esclavagiste, colonisation africaine et persécution raciale du XXe siècle. Ce rapprochement oblige à interroger les silences des récits nationaux et les conditions qui rendent certaines souffrances plus visibles que d'autres. Par rapport à des synthèses universitaires spécialisées, le livre se distingue par une thèse unificatrice, une écriture accusatrice et une volonté explicite de contester la distribution habituelle de la mémoire des crimes. Cette singularité en fait un essai stimulant, mais non un substitut aux études historiques consacrées à chacun des cas abordés. Les lecteurs gagneront à l'accompagner de travaux documentés sur les empires coloniaux, les génocides et l'esclavage, afin de situer ces interprétations dans les controverses savantes. Lu avec cette vigilance, l'ouvrage offre un outil puissant pour réfléchir aux liens entre domination, racialisation, violence d'État et mémoire collective. Si vous souhaitez soutenir Rosa Amelia Plumel Uribe, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.